Elle a honte de moi et, devant ses copines, elle m'agresse. Vous êtes en voiture avec votre fille lorsque celle-ci vous ordonne « Tu me déposes ici, maman ». L'endroit vous étonne. Je ne veux pas que les autres voient que ma mère me conduit. C'est trop la honte, surtout si elle m'embrasse. Si le stress d'un enfant de 11 ans, mesuré en situation de prendre la parole en public, est calmé par la présence affectueuse de ses parents, ce n'est plus le cas quand il en a 15. C'est alors la présence d'un ami qui l'apaisera. Cette réorientation de l'attachement sur le plan horizontal, avec les autres du même âge et non plus verticalement avec les parents, entraîne des comportements que le parent a tendance à interpréter comme « elle a honte de moi ». En réalité, un mécanisme biologique est à l'œuvre. La simple présence d'un autre jeune, activant l'attachement horizontal, déconnecte le circuit d'attachement vertical. L'ado perçoit un léger malaise et se sent soulagé dès que le parent n'est plus là en même temps que ses pairs. Pourquoi prendre la mouche? Elle grandit. Je lui laisse de l'autonomie et surtout, en présence de ses amis, j'évite ordres, conseils et autres interventions parentales qui la diminueraient. Je m'adresse à elle comme à une adulte en devenir. Par exemple, lorsqu'elle est à la maison avec une amie et que je dois m'absenter, je pars à ma séance de yoga. Il y a tout ce qu'il faut pour préparer le souper. Bonne soirée, les filles. Il met sa musique à fond. Douceur à leur tympan, les musiques de nos ados nous cassent parfois les oreilles. Pour ne plus entendre les boum boum boum, nous pouvons être tentés de leur demander d'utiliser leurs écouteurs. Danger ! Les sons ainsi amplifiés abîment leur tympan. Si, en sus, ils fréquentent régulièrement les concerts et se collent aux enceintes, leur audition peut en pâtir. La sensibilité aux différentes fréquences est différente selon les âges. L'écoute de la musique à plein volume a un effet calmant sur les ados et les aide à se sentir mieux dans leur peau, tandis que certains airs de classique peuvent leur être si douloureux que certaines enseignes de luxe et des parkings les utilisent pour les éloigner. Écouter avec lui sa musique, même si elle ne nous plaît guère à la base, peut s'avérer une expérience enrichissante. Dans la pire musique, on peut trouver quelques sonorités plaisantes et met un détail. Si nous affichons du dégoût pour ce qu'il écoute, puisque lui apprécie ce son, il peut en déduire que c'est toute sa personne qui nous rebute. S'intéresser à sa musique, c'est s'intéresser à lui et surtout le lui manifester. Rapidement, en notre présence, l'ado choisira parmi ses musiques celles qui nous plaisent aussi et non seulement ses oreilles seront protégées, mais notre connexion en sortira grandie. Ça me fait du bien. La quasi-totalité des 15-19 ans écoute de la musique avec casque ou écouteurs. 25% en font un usage intensif. 61% avouent ne jamais ou rarement baisser le son pour protéger leur audition. Un casque de qualité avec un bon niveau d'isolation phonique protégera son audition mieux que des écouteurs. Il passe sa vie sur ses écrans. À la génération précédente, les ados de 15 ans passaient des heures allongés sur leur lit avec la musique à fond. Les jeunes d'aujourd'hui sont assis face à un ordinateur, un casque sur les oreilles et montent des niveaux dans un jeu en ligne. N'avons-nous pas une responsabilité envers ces jeunes enfermés par des objets et une société que nous, adultes, avons créée? La myopie n'est pas une maladie, c'est une adaptation. L'œil apprend à focaliser sur une distance proche. Nos yeux sont faits pour accommoder en permanence. Dehors, nous accommodons sans cesse à différentes distances, nos yeux travaillent. Les écrans, eux, proposent toujours une même distance à nos yeux, occasionnant tension dans les petits muscles autour des yeux, fatigue et dessèchement oculaire quand nous fixons l'écran. En Chine, 8 lycéens sur 10 sont myopes. En Europe, il y a 47% de myopes chez les moins de 29 ans. 4 collégiens français sur 10 ne jouent jamais dehors, y compris les jours d'école. Une sortie quotidienne de 40 minutes diminue d'un quart les risques de myopie. Être dehors donne davantage de travail d'accommodation aux yeux. et l'exposition à la lumière du jour stimule la production de dopamine, laquelle régule la croissance de l'œil. Attention aux yeux. Apprenons ensemble les exercices élaborés par William Bates et créons des habitudes saines face aux écrans. Attention aussi au reste de la posture. Avachi sur un siège, le menton en avant, ce n'est pas top. Ramenez le menton vers l'arrière régulièrement. Et puis se lever, bouger, lever les bras, ça améliore aussi la circulation sanguine. Même si l'écran est rétroéclairé, soyons vigilants à avoir toujours suffisamment de lumière allumée autour. Retrouvez sur le site filiosa.net des exercices de vision. Elle est tendue. La progestérone, hormone produite par le corps jaune des ovaires, favorise la production de cortisol, l'hormone du stress. Les filles ont plus de mal à réguler leurs émotions et le stress et à se rétablir après un facteur de stress. Elles peuvent rester très tendues. Une étude montre une augmentation proportionnelle du taux de cortisol dans l'organisme en présence de facteurs de stress. Trois ont été étudiés: la surpopulation, la pauvreté, les conflits familiaux. Sauf quand on bénéficie d'une relation chaleureuse avec sa maman. Jouer, et surtout interagir positivement avec son ado, fait baisser le taux de cortisol, même si elle est exposée à des événements stressants. Quand la mère se montre sensible aux états émotionnels de son ado, cette dernière régule mieux ses émotions, montre davantage de persistance dans les tâches et développe moins de comportements négatifs. Principaux agents générateurs de stress à l'adolescence. Agression sexuelle incluant attouchement, voyeurisme, frotteurisme. À 25 ans, une femme sur trois en a été victime. Harcèlement entre jeunes, cyberharcèlement. Harcèlement de la part d'un enseignant. Disputes entre les parents. Conflits avec les parents. Pression scolaire. La honte et la peur font des nœuds dans le cœur et dans la tête. Peur de la punition, du rejet, d'être désapprouvé, de perdre l'affection. Tout ce qui altère leur sens de connexion avec l'adulte suscite de l'anxiété, qui peut se muer en stress constant, s'exprimant par des peurs nocturnes, de l'insécurité, des phobies ou des comportements excessifs de défiance ou d'agression. Nous voulons protéger nos enfants de la drogue et de ce qui est toxique pour le cerveau. Or, des hormones de stress en trop grande quantité et libérées trop fréquemment abîment les neurones. Une engueulade peut faire autant de dégâts qu'un verre d'alcool. Relâcher la pression sur les résultats scolaires n'est pas du laxisme, c'est une mesure de protection de la santé. Pour que l'ado réussisse, à l'école et ailleurs, respiration, mouvement, sécurité, attachement et nutrition appropriés l'aideront davantage à se concentrer, à mémoriser et à restituer ses connaissances. Il est anxieux. Chez l'adulte, une hormone libérée en réponse au stress, la tétrahydropregnanolone, THP, agit dans le cerveau comme un tranquillisant et génère un effet calmant environ 30 minutes après l'événement stressant. Chez les souris adolescentes, cette hormone n'a aucun effet inhibiteur de l'anxiété et semblerait même l'augmenter. Peut-être est-ce une piste pour comprendre pourquoi, chez les ados, l'anxiété s'emballe facilement. Je stresse. Parfois, on se dit qu'on aimerait bien qu'il se stresse un peu pour ses études. Mais ça ne peut que le bloquer davantage. Pour l'aider à réduire son anxiété, diminuons la pression, allégeons son emploi du temps, ménageons des espaces relaxation dans la nature, favorisons le mouvement libre. Et si nous tentions le hygge des Danois, cette façon de créer une atmosphère intime et chaleureuse, goûter ensemble les bonnes choses de la vie. Elle est apathique. Ça me dit rien de bouger. Quand rien ne la stimule, une ado peut rester sans rien faire et sans désirer faire quoi que ce soit. La voir ainsi inactive et surtout sans volonté peut énerver ses parents, tant il arrive que nous associons l'apathie avec la dépression, voire au péché capital de paresse. Or, les lobes frontaux sont essentiels dans la production de comportements volontaires dirigés vers un but. Motivation, planification, stratégie et mise en route d'une séquence de comportements dépendent du cortex préfrontal. Une panne, et c'est l'apathie. À l'adolescence, ces zones sont en remaniement. Les ados bougent si nous les stimulons ou si leur noyau accumbens est excité, donc en perspective de fort plaisir. Sinon, parfois, la volonté les quitte. Je peux déclencher le passage à l'action à condition d'éviter les ordres. Il s'agit juste de relancer le cerveau. Un seul mot fera l'affaire, surtout d'un ton calme et motivant, plutôt que chargé de reproches. Elle passe son temps à rêvasser. Quand nous ne faisons rien, notre cerveau, lui, travaille. Beaucoup. Les scientifiques appellent cela le mode par défaut. Dès qu'il n'est plus occupé par l'obligation de faire quelque chose, le cerveau s'occupe de ranger, d'organiser, de relier les informations emmagasinées. À tous les âges, nous avons besoin de mettre notre cerveau en mode par défaut régulièrement, plus encore à l'adolescence. Nous aimerions voir notre ado actif, mais il est en transition. Il a besoin de longs moments d'inactivité qui lui permettent de rêver son futur, de laisser vagabonder son esprit, d'associer des idées, d'intégrer les changements de son corps et de son esprit, de réfléchir, de laisser venir des images, de faire des ponts. Cette activité cérébrale n'est pas consciente, mais les études montrent que ce temps passé à ne rien faire améliore notablement ses résultats scolaires. Visualiser l'activité intense de ces neurones qui se déploient, s'interconnectent, construisent de nouvelles voies peut nous aider à calmer notre exaspération et à nous retenir d'intervenir. Quand une ado reçoit des remarques parce qu'elle ne fait rien, elle peut avoir tendance à se réfugier sur les réseaux sociaux. Or, l'omniprésence des outils électroniques, la tentation de jouer ou de surfer dès que nous avons 5 minutes de disponibilité, ne permettent plus à notre cerveau ce temps de processus et d'intégration nécessaire à un bon fonctionnement. Ne rien faire est bien plus difficile que jouer aux jeux vidéo. Finalement, nous serions bien inspirés de la valoriser lorsqu'elle ne fait rien. Elle est boulimique.
Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens tellement mal. Il ne faut pas qu'on me voie manger comme ça.
Les boulimiques mangent compulsivement, particulièrement des produits gras et sucrés qui déclenchent une sensation de plaisir intense dans le cerveau. La chimie cérébrale s'en mêle et enclenche un processus d'addiction. L'ado a alors bien du mal à réguler ses frénésies alimentaires. Son cerveau et sa flore intestinale guident ses choix vers des aliments qui vont lui apporter sa dose de dopamine. Comme dans toute addiction, il en faut toujours plus pour arriver à la même satisfaction. Culpabiliser l'ado parce qu'elle mange trop, surprendre ses cachettes, tenter de la contrôler sera contre-productif. La honte ne peut qu'aggraver le vide intérieur qu'elle tente de remplir par la nourriture. Lâchons sur la nourriture pour porter notre attention sur ses émotions. Nous pouvons l'aider à identifier les sources de son stress, à verbaliser sa souffrance, à partager sa détresse et surtout à exprimer ses rages et ses fureurs, et toujours lui apporter de l'amour. Car l'amour est le carburant qui lui permettra de peu à peu sortir de l'addiction à la nourriture, sans omettre toutefois le rééquilibrage de sa flore intestinale. Il se tient mal. Votre fils est en train de faire ses devoirs sur la table du salon, il se tient très mal, il est presque allongé sur la table. Vous lui faites une remarque. « Mais tiens-toi droit, bon sang !»«
Arrête de me harceler, je suis fatiguée !»
Impossible de le faire se tenir droit ? Eh oui, son squelette se modifie et il manque de muscles. Mais qui lui a demandé si souvent de s'asseoir au cours des précédentes années ? Un enfant trop souvent et trop longtemps assis ne développe pas suffisamment son tonus musculaire. Plus on s'assied, plus on est fatigué. Les muscles du périnée et du dos se relâchent. les enfants d'aujourd'hui courent moins vite et moins longtemps que leurs parents au même âge. Depuis les années 1970, tous les 10 ans, les enfants ont perdu en moyenne 5% de leur capacité cardiovasculaire. En France, un enfant sur deux seulement respecte les recommandations des autorités de santé qui préconisent 1 heure d'activité physique par jour, 1 demi-heure pour les adultes. Quelques rendez-vous avec un praticien Feldenkrais ou Mézières ou autre posturologue lui enseigneront à positionner ses épaules, à trouver sa stabilité, à équilibrer le poids de son corps dans ses mouvements. Des anneaux de gymnastique à accrocher dans sa chambre ou dans une pièce commune pour que tous en profitent sont ludiques et l'aideront à muscler le haut de son corps, le torse et le dos. Les arts martiaux, bien sûr, qui travaillent sur l'énergie, l'équilibre et la maîtrise, la danse et tous les sports, mais surtout du mouvement libre. On peut aller dans les bois, grimper aux arbres, jouer avec le chien.